On arrête tout, on réfléchit et c'est joyeux. Non, on dit et c'est pas triste. Déjà, à l'époque, ils étaient en position défensive. C'est-à-dire que si c'est de la sobriété, il faut quand même justifier le fait que ça soit pas triste. Est-ce que la sobriété, elle est forcément heureuse? Est-ce qu'elle est pas triste? Du coup, je vais reprendre juste pour, avant de passer la parole à Bruno Villalba, un de ses écrits. À une époque, on appelait ça la maîtrise de l'énergie. C'est passé maintenant à la sobriété. Entre-temps, c'était passé à la décroissance. Donc, quel est le bon terme à utiliser? Tu écris dans ton livre, la maîtrise de l'énergie évoque l'idée d'un contrôle actif qui permettrait à chacun de réduire sa consommation d'énergie ou de la stabiliser, voire simplement d'en limiter l'augmentation. La maîtrise de l'énergie n'implique donc pas en soi nécessairement une diminution de la consommation énergétique et peut même se révéler compatible avec les augmentations. Avant de te passer la parole, RTE, le réseau de transport de l'énergie, a fait un exercice prospectif où il a établi 8 scénarios pour l'avenir. Dans les 8 scénarios, la consommation électrique ne réduit pas, elle n'augmente pas aussi vite que prévu. Donc on voit bien qu'en fait, en termes de compréhension de ce que recouvre la notion de sobriété, il y a manifestement quelque chose à creuser. Je te passe la parole pour une dizaine, quinzaine de minutes maximum. Au bout de 10 minutes, je vais jouer le Cerbère.
Merci. Donc, merci de l'invitation. Ça fait toujours bien quand on lit ce qu'on a écrit. On a l'impression d'avoir écrit des trucs vachement intelligents. Donc, merci. Alors, je remercie de l'invitation. Je remercie aussi Jacques Archambon, qui a rendu possible la venue des étudiants du Master GTES, que je salue, qui font des comptes rendus de chacun de nos ateliers. Alors, merci aussi du cadrage général qui a été fait par le groupe en amont sur les questions de la sobriété, parce que ça a permis de redéfinir et de repréciser un certain nombre de choses par rapport à ce que je voulais dire. Alors, la notion de sobriété, en fait, elle est chargée de références symboliques et on a tous une idée à peu près construite de ce qu'on pourrait appeler la sobriété. Si on faisait un petit exercice collectif, on arriverait à quelques notions clés qui sont à peu près partagées. Et en fait, il y a deux référentiels de la notion de sobriété qui vont constamment se mettre face à face et en dialogue, voire en opposition, on va le voir. Alors le premier, c'est à construire la sobriété comme la juste mesure dans l'usage d'un produit. Et donc, il y a quelque chose d'extrêmement important entre ce que l'on a créé comme besoin, ce que l'on utilise pour satisfaire ce besoin, et l'idée que le service ou le bien qui permet de répondre à cette attente, ce désir, eh bien, finalement, il est à disposition. Et donc, ce produit, il est perçu sans limite d'accès. C'est-à-dire, on va pouvoir, grâce à l'abondance de ce produit, aller dans les démesures, l'hybris, c'est-à-dire l'absence de proportion dans l'usage du produit. Alors, il est sans limite parce qu'on peut le produire, on a techniquement les moyens de le produire de manière continue et de manière infinie. Et historiquement, ça s'est construit autour de la construction de la richesse. La richesse n'a pas de limite en tant que telle. L'alcool, c'est pour ça que sur la sobriété, on va très tôt poser la question du rapport de modération avec l'alcool, puisque l'alcool est en abondance, et en abondance, c'est limité et en diversifié. Le luxe, etc. Enfin, il y a toute une série de produits qui, finalement, sont construits comme des symboles de cet accès sans limite. La question de l'abondance et la question du rapport au produit, c'est en fait, la sobriété pose la question du mésusage. C'est vraiment la relation de dépendance qu'on va créer à un produit. Et on est dans une situation, finalement, où on incite à la sobriété dès lors qu'on est dans un mésusage d'un produit. C'est pour ça que les politiques de réduction des risques construisent une réflexion sur le rapport au produit, pas sur la moralisation du rapport au produit, mais sur l'effectivité, les causes, les raisons pour lesquelles on va utiliser ce type de produit. Et ça va produire des déséquilibres, des dérèglements de sens, le sens individuel, ce que produit l'alcool quand on l'utilise, ou des relations sociales, les méfaits de l'alcool et les ligues d'hygiène publique de la fin du 19e siècle étaient construites sur l'idée de l'abstinence comme morale citoyenne, comme vertu républicaine. Et donc, il fallait éduquer les masses populaires, essentiellement les masses prolétariennes, évidemment, parce qu'elles seules avaient, bien évidemment, un mésusage de l'alcool. Et donc, on va élaborer... Je vais très vite là-dessus, des réponses philosophiques. le courant des cyniques, des stoïciens, des épicuriens. Chacun va proposer une manière de construire une modération, une éthique personnelle de la modération qui finalement rétablit cet équilibre et rend un autonome les individus par rapport à l'usage des produits. Les religions monothéistes vont elles-mêmes s'inscrire dans ce type de courant où on va créer un rapport de proportion dans l'usage du produit afin d'assurer la maîtrise, mais dans un objectif bien particulier. Chez les courants de la philosophie que j'ai cités, c'est renforcer l'autonomie de l'individu, acquérir une indépendance finalement qui constitue la valeur fondamentale de l'individu. Du côté des religions monothéistes, on se conforme à une injection d'un ordre, se conformer par rapport à la parole de Dieu, et si on se conforme par rapport à la parole de Dieu, eh bien on accédera au paradis. Paradis, on ne sait pas si c'est une question de la sobriété qui est posée d'ailleurs dans le paradis. Et donc c'est la juste mesure qui va être importante. La sobriété, c'est la juste mesure. Ce n'est pas le refus de l'usage du produit, et ça c'est extrêmement important dans la suite, c'est-à-dire c'est une manière de construire une relation raisonnable, la proportion, efficace, on va la maintenir dans le temps, on pourra toujours consommer de ce type de produit, et puis renouvelable, puisqu'on invente des dispositifs techniques qui rendent l'accès permanent. Et donc, on est dans une forme de frugalité qui ne produit pas un renoncement à l'accès aux produits, et ça, c'est extrêmement important, mais qui contribue à construire, finalement, une jouissance modérée, une jouissance raisonnable. Donc, ce n'est pas le refus du produit, c'est, vous voyez, le mésusage qu'on va condamner. Et donc, cette logique-là va construire, finalement, un rapport au produit, au bien, au service, qui est basé sur l'idée de l'abondance. On a techniquement pu réaliser cette abondance. On verra qu'elle est inégalement partagée, bien évidemment. Et une petite citation d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gunther Anders. Et il dit, voilà, cette expression de la société d'abondance, cette expression ne désigne pas seulement une situation économique particulièrement intéressante, mais aussi la situation la plus révolutionnaire qu'il n'y ait jamais eu, le paradis des gourmands, c'est-à-dire une situation dans laquelle le pays de Cocagne, dont l'humanité a rêvé de l'époque d'Adam jusqu'à aujourd'hui, est enfin devenue réalité. Autrement dit, précise-t-il, nous vivons dans un monde où tout est présenté, où tout est présent pour nous, dans un monde sans manque. Ça, c'est ce qu'a permis finalement l'évolution technique, le concept démocratique aussi qui lui est associé. Et donc, on fonctionne finalement dans une logique aujourd'hui, et on va retrouver ça parfaitement dans le plan de la transition énergétique proposé par Macron, mais aussi dans pas mal de contre-propositions politiques, du côté de ce qu'on peut appeler la gauche critique, la gauche écologique, c'est-à-dire continuer à construire une relation maintenue, continue mais optimisée, le mieux, l'efficace, okay, avec l'usage des biens et des produits. Donc on est toujours, nous, dans cet imaginaire de la conciliation possible entre un usage plus raisonné d'un certain nombre de produits, mais qui doit être continu et extensible et accessible à l'ensemble de la population mondiale. Et donc, on voit bien que maintenir cette perspective d'une croissance, qu'on peut la qualifier de verte ou croissance libérale, peu importe, eh bien, elle va être compatible avec l'extension de la satisfaction des besoins pour tous. Et cette conciliation possible, c'est à la fois la production d'un imaginaire politique, le modèle de la démocratie qui est celui de l'émancipation de chacun, et avec un modèle technologique qui rend ça possible. Techniquement, ça a plutôt bien fonctionné quand on voit l'augmentation du standard du confort de vie pour l'ensemble de l'humanité. Encore une fois, c'est ce qu'on promet, c'est l'intention. Dans la réalisation, bien évidemment, ça ne fonctionne pas aussi facilement que ça. Donc on maintient l'idée qu'il y a une possible conciliation entre le fait qu'on va réduire les inégalités et qu'on va réduire en même temps la pression terrestre. En même temps, on va continuer l'extension de la consommation individuelle, le pouvoir d'achat, et en même temps, on va accroître la responsabilité du consommateur, la consommation verte. Okay ? Et donc, cette conciliation est fictivement possible, elle est possiblement, en tout cas, réalisable dans l'expression d'un discours politique, c'est ce que fait Macron et d'autres. Et donc, la sobriété, finalement, dans le plan de Macron, c'est une étape conjoncturelle. Il y a un problème d'adéquation entre la demande et la satisfaction des besoins, à cause de la raréfaction des ressources, eh bien on va accentuer le phénomène. Le second référentiel, c'est celui de l'écologie politique au sens large du terme, c'est-à-dire c'est à partir des années 60, lorsqu'on commence à évaluer l'hypothèse d'un décrochage entre le système productiviste, celui qui nous promet l'abondance, et finalement les ressources matérielles disponibles. Et ce décrochage, il s'inscrit dans le cadre des limites planétaires. Et ça, c'est vraiment le point d'achoppement théorique extrêmement important dès lors qu'on réfléchit sur la question de la sobriété. Soit on est dans une hypothèse de continuité de l'extension de la consommation par une amélioration des dispositifs techniques, soit on est dans l'idée que ça n'est pas possible au regard des contraintes des limites matérielles. Et donc cette confrontation, eh bien, elle va se baser sur plusieurs éléments clés. Alors j'en cite simplement un ou deux, parce que je vois que le temps tourne. Le fait que comment on va concilier l'abondance et la liberté. La démocratie, c'est la promesse du bonheur de chacun de se réaliser. Les conditions matérielles pour le faire, eh bien, c'est l'environnement technique qui va nous le promettre. Comment on réalise ça à 8 milliards d'habitants ? Puisque c'est ça l'enjeu, ce n'est pas simplement de savoir si on va accorder une meilleure qualité de vie simplement aux Européens, c'est à 8 milliards d'habitants. Donc comment on fait cette situation de rattrapage de l'abondance promise pour la réalisation de chacun à 8 milliards d'habitants ? Deuxième élément, c'est comment on fait pour atteindre un niveau de confort qui a été naturalisé. La naturalisation du niveau de confort, c'est on considère qu'un individu libre, autonome, digne, doit avoir accès à une quantité de matière, de quantité d'énergie, quantité de mobilité, quantité de biens culturels, quantité de loisirs, etc., etc. Et donc, on est dans un dispositif, finalement, d'accumulation des biens à notre disposition. Et techniquement, encore une fois, ça a plutôt marché. Deuxième chose que va interroger l'approche écologique, c'est cet inventaire. Elle va mener à un inventaire du progrès et un inventaire des conséquences des risques du progrès et des risques technologiques. Et notamment, si on y adjoint, la question du nucléaire, qui est une dimension extrêmement importante pour comprendre comment on peut construire un imaginaire de l'abondance indépendamment du risque nucléaire, qu'il soit civil ou militaire, par ailleurs. C'est la critique du productivisme, on l'a beaucoup évoqué, j'y reviens pas. Et puis, il y a une dernière dimension qui est extrêmement intéressante quand on voit les auteurs de notamment Jacques Ellul en France et Bernard Charbonneau, Ivan Illich, André Gors, dans une moindre mesure, il ne parle pas tellement de cette question-là, mais aussi Dominique Bourg. C'est la question du rapport, ce que propose la sobriété, par rapport à la limitation du risque de violence sociale et écologique. Et ça, c'est extrêmement important. À partir du moment où on rentre dans une politique de raréfaction de la ressource ou de l'accessibilité de la raréfaction à la ressource, eh bien, c'est la question de savoir qui va accéder d'abord à cette ressource-là. Et on voit bien, c'est déjà une situation, hein, quand on voit les politiques extractivistes qui sont menées de manière extrêmement violente à l'égard des populations d'ailleurs, c'est une question qui se pose vraiment actuellement. C'est la proposition qu'avait posée Yves Cochet chez Les Verts, avec assez peu d'écho d'ailleurs, hein, sur le risque du catastrophisme et de la violence en raison de la nécessité de répartir plus justement la question de la ressource. Donc là, on rentre dans une limitation de nos capacités de choix. Tout à l'heure, vous voyez, l'hypothèse Macron, c'est « vous inquiétez pas, grâce à un surcroît technologique, on va pouvoir développer une série d'options ». Nous, on rentre plutôt dans une logique, en tout cas dans le principe de limitation de la ressource, sur la limitation des choix disponibles, l'assèchement des choix disponibles, et donc la manière dont on va les prioriser et la répartition de ces choix. Alors, c'est là où, effectivement, on peut être tous d'accord sur un consensus général autour de « oui, la sobriété, c'est bien, les éco-gestes, c'est bien, etc. » On est à peu près tous d'accord que c'est nécessaire. La question, c'est de quand, lorsqu'on va rentrer dans une phase plus délicate, qui est de mesurer les conséquences de cette politique de sobriété. Et ça aussi, c'est important. On peut être d'accord sur un principe, mais quand on examine les conséquences des conséquences de ce que ça produit, eh bien là, on va retrouver des tensions qui sont extrêmement importantes, mais qui sont des tensions qui montrent bien la dimension proprement politique de la sobriété et pas une dimension simplement technique de la sobriété. L'efficacité, le renouvelable, ce que proposent en majorité la plupart des acteurs de la sobriété énergétique, c'est une question de développer des process qui permettent finalement de maintenir cette illusion de l'abondance. Alors, quelques questions, quelques conséquences qui vont percuter de plein fouet les nombreux référentiels de l'action politique, qui sont à peu près le lot commun de nos réflexions jusqu'à aujourd'hui. C'est les modes de négociation de la répartition de la richesse. Comment on va qualifier ce qu'on appelle superflu ou nécessaire ? On l'a bien vu au moment de la Covid, et ben, ça se discute, ce n'est pas évident. Est-ce que la culture, c'est une question de l'ordre du superflu ou du nécessaire ? Eh ben, les avis ne sont pas si évidents que ça. Qu'est-ce qui est en fait de l'ordre du crucial ou de l'indispensable ? Et ce n'est pas évident que ce soit les mêmes critères de définition au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ou suivant qu'on est riche ou qu'on est pauvre, etc. Les seuils d'accès et la répartition, qui décide de qui va accéder à quoi et en quelle quantité. Et on voit bien que c'est une négociation extrêmement importante. On le voit sur l'accès à la ressource énergétique, par exemple. Dans ce cas-là, c'est comment on va construire les conditions de l'émancipation de chacun en équité, pas forcément en égalité, mais en équité, en fonction de nos modes de vie. Et ça, c'est des dimensions qui sont très intimes, puisque finalement, il y a une question centrale aussi, la question de la natalité, de la pression démographique sur les ressources planétaires. Et donc, on voit bien que être sobre, ce n'est pas simplement la question de l'énergie, c'est la question de l'alimentation, c'est la question de la mobilité, c'est la question de la natalité. Et là, on voit bien comment cette question qui paraît désincarnée quand on évoque la question technique devient extrêmement personnelle et extrêmement impliquante sur le plan émotionnel. C'est la question du choix des enfants, et c'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se produire dans une partie des jeunes qui refusent, notamment en raison des pressions écologiques, de faire des enfants. C'est les conditions de la construction de la justice sociale. C'est est-ce que les politiques redistributives font sens par rapport aux limites planétaires ? C'est un débat extrêmement important qu'on doit mener au-delà des déclarations d'intention de justice. Oui, il est juste que les plus pauvres aient accès à un minimum d'énergie. Mais ce niveau, on le fixe comment ? En fonction, encore une fois, de la répartition de l'accès à 8 milliards d'habitants, pas simplement à ceux qui ont la capacité de négocier ou à peser dans la discussion. Donc c'est ce que m'avait dit Didier dans un bouquin qu'on a fait sur la sobriété énergétique. Il avait eu cette question, quand je l'interrogeais avec mes questions d'universitaire, là, il m'avait dit, mais assez c'est combien ? Assez c'est combien ? À quel moment on considère qu'on est dans le superflu ou dans, le suffisant ? Et qui va le décider ? Et comment on le négocie socialement, etc. Et enfin, dernier élément, c'est les temporalités des politiques de sobriété. Tout le monde est d'accord que l'urgence est là, que la catastrophe est en train de s'installer confortablement. C'est à savoir quand on va mettre des politiques de sobriété sur le plan alimentaire, sur le plan de la mobilité, sur le plan d'achat. Là, on est en train de réfléchir sur comment on va faire la sobriété. Et donc, on diffère à chaque fois le moment où il faudra prendre des mesures qui seront nécessairement impopulaires. Puisque finalement, en terminant la sobriété telle que j'essaie de le présenter rapidement, trop rapidement, c'est une politique de renoncement, mais vraiment du renoncement. C'est-à-dire, c'est pas mieux, c'est moins. C'est moins pour tous, moins différencié, bien évidemment, ceux qui sont les plus riches, à condition qu'on définisse le seuil de la richesse. Et alors là, c'est un débat qui va être assez intéressant. Et donc, moins pour tous, beaucoup moins pour certains, mais sur le fait qu'on va aussi construire un effort équitablement partagé. Il est évident que les rythmes de la décroissance de la consommation ne seront pas les mêmes si on est déjà dans le superflu, le luxe, l'ostentatoire, le jet privé, etc., ou si on est dans une logique où on va tenir compte en même temps de l'équité intragénérationnelle, intergénérationnelle et avec les non-humains. Parce que ça aussi, moins on consommera de ressources, moins on consommera d'espace, plus on donnera la possibilité aux autres terrestres d'exister. Et enfin, il faut que ce soit démocratiquement négocié, à condition effectivement qu'on pose les termes du débat à partir des limites planétaires et pas simplement à partir de ce qu'on voudrait, ce qu'on désire, mais ce qui est finalement encore un peu réalisable. Voilà, merci.
Merci pour cette sobriété temporelle remarquable. Pendant nos rencontres, il n'aura pas échappé à pas grand monde que nous avons un mondial de l'automobile qui fait feu de tout bois. Ça, c'est le mondial de l'auto avant le lancement du débat public sur la construction de 2, 4, 6, 8 EPR. Où globalement, on a un peu l'impression que finalement, on n'a pas besoin de sobriété parce que l'énergie est notre avenir, on n'a pas besoin de l'économiser. En gros, on n'a pas de pétrole. J'y reviendrai, j'ai quelques documents qui datent des années 70. Mondial de l'auto, où on a vu succéder un nombre d'innovations, de présentations de nouveaux modèles qui laissent supposer qu'effectivement, on n'est pas dans le moins, mais dans le mieux. On change de moteur et finalement, ça résout le problème. J'ai compris qu'en lisant un peu de texte, ça plaisait aux auteurs. Donc, du coup, je vais m'astreindre à lire quelques lignes à chaque fois. Dans votre livre, pour en finir avec la vitesse, vous indiquez que l'expérience démontre que les temps de transport gagnés grâce à l'augmentation des vitesses de déplacement sont globalement réinvestis dans les distances parcourues. On parcourt aujourd'hui en France 60 km par jour contre 4 km avant la révolution industrielle. Ça veut dire que le temps gagné à se déplacer permet d'aller plus loin, d'accéder à plus d'activités. Si le budget temps de transport, le temps consacré à se déplacer, est ainsi globalement constant depuis les années 80, avec une heure de déplacement en moyenne, les distances parcourues, elles, augmentent. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on est dans un effet rebond, dans de la contre-productivité de Dilich ? Enfin, voilà, est-ce qu'il suffit juste de changer de moteur, de carburant pour avoir réglé la question ?
Donc, pour le coup, c'est vrai que c'est très bien que les rencontres, finalement, aient lieu exactement au moment du Mondial de l'automobile, puisqu'on a fait une tribune au Forum Bimobile avec d'autres institutions pour dire que c'est certainement pas au Mondial de l'automobile qu'on va trouver la solution au problème. Mais donc, moi, ce que je vous propose, en fait, ce que je vais expliquer ou ce que je vais dire, c'est rappeler en fait le problème de la mobilité, mais surtout faire des propositions. Parce qu'effectivement, hier, d'exposer assez dramatique en exposé encore plus dramatique. Et donc, malgré tout, ça m'a amené à revoir la présentation que je pensais faire pour mettre sur la table des propositions qui prennent en compte la sobriété telle qu'elle a été présentée par Bruno Villalba. Donc, effectivement, il y a un problème de fond sur les transports. Les transports, c'est 30% des émissions de la France. Et si on fait vraiment en fait, ce que l'État a dit qu'on allait faire, c'est-à-dire qu'on passe de 10 tonnes d'émissions de CO2 par personne à 2, ben, en fait, il ne reste rien pour les déplacements. Donc, du coup, c'est assez la sobriété, c'est un peu la sobriété radicale. Il ne reste rien du tout. Voilà. Alors après, je ferai une petite remarque par rapport aussi à des choses qui ont été dites hier. Ça, ça vient pas de la nuit des temps. Ça vient pas de la nuit des temps parce qu'effectivement, comme rappelait Stéphane en citant un paragraphe de notre livre, on est passé de 4 km par jour à 60 km par jour. Et 4 km, c'était quand on marchait et quand on se déplaçait à cheval. C'était jusque, on va dire, en 1830. Donc c'est pas si ancien que ça. Ça date pas de la préhistoire avec une montée continue des émissions liées à nos déplacements. En gros, les émissions liées aux déplacements étaient à peu près flat pendant plusieurs millénaires et elles ont augmenté à partir de 1830. Donc les émissions, elles sont liées à la motorisation. Donc c'est pas du tout. Donc à la fois c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est qu'on a vécu avant et y compris de façon assez développée. Une mauvaise nouvelle, c'est que c'est quand même un gros problème. Et donc, pourquoi c'est comme ça ? Effectivement, on se déplace de plus en plus loin, de plus en plus souvent. Donc ça, c'était aussi le titre d'un livre d'Yves Cochet. Et aussi, on est de plus en plus nombreux à se déplacer, puisque en fait, le coût des déplacements a été divisé par 4 dans les 50 dernières années. Donc, même si en fait, quand ça revient sur la table, c'est toujours au moment des crises énergétiques ou crise des gilets jaunes, idée de la taxe carbone ou autre, malgré tout, quand même, globalement, pour l'instant, le coût des déplacements continue de diminuer la part du coût des déplacements dans nos revenus continue de diminuer. Et donc, ce que nous, on met sur la table, c'est que ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard si les déplacements sont si prégnants, si en fait nos modes de vie sont dispersés spatialement, parce qu'effectivement, en allant de plus en plus vite, on le fait de plus en plus souvent et on va de plus en plus loin plutôt qu'avoir gagné sur les temps de déplacement. C'est pas un hasard parce qu'en fait, on a une politique continue d'infrastructures de transport, de réglementation pour fluidifier la circulation et pour qu'il y ait si possible moins d'accidents, de production de véhicules. Donc véhicules thermiques, véhicules peut-être électriques demain. Et donc d'une certaine façon, la politique, ça marche. Quand pendant plusieurs décennies, on essaye, on veut que tout le monde se déplace le plus possible, en fait, les gens le font. Alors bien sûr, c'est parce que c'est aussi une liberté formidable. Parce que c'est en particulier la voiture, c'est quand même extraordinaire de pouvoir, pouvoir partir de chez soi pour aller où on veut, à peu près quand on veut. C'est donc, je vous renvoie, si pour ceux qui aiment bien la littérature de la fin du 19e, à tous les textes en fait, y compris Proust par exemple, qui célèbre l'arrivée de la voiture et de la liberté qui va avec. Hein. Donc c'est pas nouveau, c'est pas juste un truc de pilote de Formule 1. C'était vraiment, l'irruption de la liberté de se déplacer vite et loin d'un seul coup. Et donc, si je reviens à ma stratégie nationale bas carbone, est-ce que c'est possible ou pas d'arriver à zéro ? Donc, comme j'ai fait un constat dramatique, je me dois de faire des propositions optimistes. Et pour le coup, j'en ai. Donc, le problème, en fait, c'est que jusqu'ici, on a eu trois sortes. Donc, vous savez, à l'ONU, ils classent les politiques publiques en trois grands schémas. Il y a les politiques d'amélioration, les politiques de changement, de shift, et les politiques d'évitement. Donc, il y a un jeune chercheur, Aurélien Bigot, qui a analysé toutes les politiques publiques qui ont été menées en France en matière de mobilité depuis une trentaine d'années. On avait fait aussi, juste avant, un grand projet de recherche international sur les politiques publiques menées dans une quinzaine de pays dans le monde. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que les politiques publiques, elles sont toutes centrées sur ce que les Anglais appellent l'improve, l'amélioration. Amélioration de la performance énergétique du carburant, amélioration de la performance des véhicules. Donc ça, c'est pas que ça marche pas, parce qu'en fait, effectivement, les performances en question, elles sont meilleures. Un petit peu de politique sur comment passer des modes polluants aux modes moins polluants. Ça, on va dire que ça marche pas du tout. On est exactement au même pourcentage, à 15% de transport collectif depuis des décennies. Et puis, c'est tout. Et donc, du coup, globalement, les émissions continuent d'augmenter ou sont vaguement stabilisées, tout simplement parce que le nombre de déplacements et les kilomètres parcourus augmentent plus que proportionnellement. Donc, maintenant, en fait, et c'est peut-être le sens que moi je vais donner à la sobriété en appliquant les définitions données par Bruno Villalba, la sobriété en matière de déplacement, c'est non pas ne pas se déplacer, mais se déplacer sans émettre. Et donc, la seule politique qui a été imaginée pour empêcher les déplacements, on va dire que c'est un peu comme celle qui avait été imaginée pour les cigarettes, c'est-à-dire on taxe et puis on essaye d'espérer que les gens vont moins fumer. Donc là, ça n'a pas trop mal marché, mais ça a mis quand même, 30 ans, 40 ans. Et puis bon, c'est pas super stable quand même. Et donc, on a essayé de faire la même chose avec l'essence. Donc on s'est dit, alors pourquoi l'essence ? C'est parce que dans les transports, j'ai dit les transports, c'est un tiers du problème des émissions. Mais la route, c'est 95% de ces 30%. Donc on va dire quand même que c'est l'essentiel. Et puis la voiture personnelle, c'est la moitié. Donc en gros, si on veut vraiment, on va dire l'ennemi, puisque je ne sais plus qui disait hier, il faut savoir quel est l'ennemi. Ben, l'ennemi très concret, c'est la voiture individuelle. Pas forcément l'automobiliste. La voiture, bien sûr, si elle est... OK. Première politique d'évitement, on va dire que c'est un échec total. Plusieurs centaines de milliers de gens autour des ronds-points à l'hiver 2018-2019, à la suite de l'instauration de la taxe carbone, du renforcement du contrôle technique. Et puis, on a autour de ronds-points routiers des gens qui endossent un gilet de sécurité routière qui ne sont pas contents. Donc là, d'un seul coup, on arrête tout. Et puis, la deuxième politique qui vient à l'esprit, c'est la politique de rationnement. C'est-à-dire, on se dit, finalement, si on ne peut pas le faire par la taxe, parce que le gros problème de la taxe, quand même, c'est qu'en gros, elle est à peu près indolore pour les plus riches. Et puis, elle n'est pas forcément extrêmement coûteuse pour les plus modestes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a un petit problème éthique, je vais y revenir. Et donc, elle est un petit peu agaçante, en fait, pour les gens qui n'ont pas trop le choix que de se déplacer en voiture. Et donc, on commence à parler de la politique de rationnement. Donc moi, ce que je vais faire comme proposition, c'est d'inscrire des propositions dans une perspective démocratique. Et c'est en ça, moi, que je dirais que on peut avoir une sobriété heureuse. Je mettrais heureuse au sens choisi collectivement. Ça me semble une bonne définition d'un bonheur qui soit pas trop psychologisant, que je saurais pas du tout définir. Et donc, quand on demande aux gens ce qu'ils veulent, alors là, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles. Donc on a fait une très très grande enquête, plus de 12 000 personnes ont été consultées dans le monde occidental, puisque c'est le monde occidental qui pollue le plus, donc en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne. Et ce que disent les gens, c'est que ce qu'ils aimeraient, c'est... Alors voilà leurs quatre grandes aspirations, et là vous allez voir que je ne suis pas tellement d'accord avec ce qui a été dit par Erwan Lecoeur hier. Ils aimeraient vieillir en bonne santé. Donc vieillir en bonne santé, ben quand même, je suis sûr que vous pensez la même chose. Et ça veut dire moins de sédentarité. Donc ça donne quand même des idées pour les politiques de transport. Ils voudraient ralentir. Donc ralentir, ça voudrait dire avoir moins de déplacements contraints. Les déplacements contraints, c'est le domicile-travail, les courses, l'accompagnement, l'administration, la santé. Ils voudraient vivre en plus grande proximité. Et quand on essaye de faire définir ce que c'est que la plus grande proximité, c'est en gros avoir tout leur mode de vie quotidien qui pourrait se déployer soit à moins de 30 minutes quand ils habitent dans des grandes villes, soit à moins de 30 km quand ils habitent dans des territoires moins denses. Et si possible, quel que soit le cadre de vie dans lequel ils sont déjà, c'est-à-dire s'ils sont à la campagne, s'ils sont dans une petite ville, s'ils sont dans une grande ville, s'ils sont dans une mégalopole, donc non, pas s'ils sont dans une mégalopole, pour les autres cadres de vie, ils ont envie de pouvoir continuer de vivre dans leur cadre de vie. La mégalopole, c'est une particularité, une personne sur deux veut en partir. On se demande pourquoi. Et donc, en fait, si je traduis ça en termes politiques, comment on répond aux aspirations démocratiques et on se doute, là déjà, on voit déjà qu'elles peuvent aller dans le sens de la transition écologique. Eh bien, moins de sédentarité, c'est plus de modes actifs pour les déplacements. Et donc là, il y a une bonne nouvelle. Il y a à peu près 30% de la population française qui vit déjà en assez grande proximité. Et pourtant, alors que leurs déplacements font 3-4 km, 2/3 de ces déplacements sont faits en voiture. Donc là, même si tout le monde ne peut pas passer au vélo et à la marche, on se dit quand même qu'il y a une marge d'amélioration significative, aisée, facile, possible. Ça, c'est si je reprends la typologie de mégawatt, la sobriété d'usage, on doit pouvoir abandonner la voiture pour faire ce type de déplacement. Malgré tout, il y a quand même juste un petit problème, c'est qu'il n'y a quand même pas tant de routes, tant de rues que ça, où on peut vraiment marcher ou faire du vélo. Par exemple, je sais pas, là, pour venir de l'hôtel à l'abbaye, ben on passe sur un petit pont, il n'y a pas de trottoir. Voilà. Donc en fait, on est... Voilà. C'est juste pour une petite remarque. Hein. Bon, et en fait, c'est quand même comme ça sur à peu près toutes les routes de France, à part dans les grandes villes. Deuxième chose, pour avoir une alternative à l'utilisation de la voiture solo, comme on dit, à l'autosolisme au quotidien, en fait, il faudrait des transports collectifs cadencés. Donc, ça, c'est le truc que plus personne ne veut avancer. Puisqu'en fait, on se dit, on vous parle du covoiturage, puis c'est bizarre. Donc là, justement, avec la Fabrique écologique, on a une étude en cours. Dans la zone de pertinence du covoiturage courte distance ne nous saute pas aux yeux. Donc effectivement, ça semble une bonne idée, puisque en moyenne, on n'a jamais autant parlé de covoiturage que depuis qu'on est aussi peu nombreux en voiture. Parce que là, on tangente 1. Donc on ne va pas pouvoir tellement descendre. Et c'est quand même une bonne idée de se dire que ce serait bien qu'on soit... Parce que le rendement énergétique d'une voiture, ce n'est pas formidable. Hein, avec une personne de moins de 100 kilos dans un truc qui fait plus d'une tonne, on se dit intuitivement que c'est quand même dommage. Ou presque deux. Mais malgré tout, il se trouve que, compte tenu de ce que je disais précédemment et de la dispersion spatiale dans laquelle on a organisé le territoire, la zone de recouvrement qui ferait qu'on aurait exactement les mêmes déplacements, elle semble assez faible. C'est pour ça que le covoiturage qui se déploie, il fait de la concurrence au train, c'est dommage, et pas tellement à la voiture. Et puis, donc ça, c'est le transport collectif. Donc nous, on s'est dit, tant pis, on va essayer de faire chiffrer ça. Ce serait quoi un système de transport collectif cadencé? Parce que pour que ce soit vraiment alternatif, il faut que vous ayez des transports collectifs cadencés et qui soient un peu tout horaire. Hein. Parce que si, par exemple, quand on vient aux rencontres, on veut partir à 9h30 pour prendre le train qui rentre, pour prendre le train à Mâcon, en fait, s'il n'y a pas de transport collectif, c'est quand même un petit peu loin pour le faire à pied. Et donc ça, c'était vraiment une demande. Donc nous, on a fait donc j'aurais dû l'expliquer un peu mieux, mais on a fait un grand forum citoyen. Donc dans ce forum citoyen, les gens ont confirmé, je dirais, les grandes aspirations à vivre en plus grande proximité et à vivre de façon avec moins de contraintes sur leurs déplacements, tel qu'on l'avait vu dans la grande enquête quantitative. Mais en plus, puisque là, c'était un forum citoyen en France, Les gens disent, on veut en fait, pour avoir une alternative, pour abandonner la voiture, il faut une alternative. Et donc si on chiffre ça, puisque en fait toujours, il y a quelqu'un qui va dire, mais tout ça, ça coûte très cher, comment ? Donc en gros, on n'est pas encore complètement au bout du chiffrage, mais disons qu'en gros, c'est 1 milliard par département. Alors 1 milliard par département, c'est pas rien, mais je rappellerai juste que le Grand Paris Express, c'est 50 milliards pour moins de 10% de la population. Donc je vous laisse réfléchir et me dire ce que vous en pensez. Voilà. Donc moi, je donne juste des ordres de grandeur, mais c'est vrai que 1 milliard pour 100 départements, ça fait 100 milliards. Et le Grand Paris Express, c'est 50 milliards. Et donc voilà. Et donc, l'autre grande politique, c'est une politique qui permettrait de réduire les distances à parcourir, bien entendu. Et c'est une politique d'aménagement du territoire, sachant que la politique de métropolisation qui est menée depuis plusieurs décennies a tendance à augmenter les distances et non pas à les réduire, pour des raisons très simples. C'est que des gens qui habitent au centre et qui travaillent en périphérie, ou des gens qui habitent en périphérie et qui travaillent au centre, en proportion, ils sont de moins en moins nombreux. Parce qu'il y a plein de gens maintenant qui habitent en périphérie et qui travaillent en périphérie, parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont en périphérie. Et parce qu'on a externalisé, entre guillemets, on a sorti des centres-villes beaucoup d'emplois. D'abord, bien sûr, les emplois industriels, pour des raisons, entre autres, écologiques, mais aussi les emplois tertiaires. Donc, d'une certaine façon, le logiciel qui voudrait qu'on résoudrait tout avec des transports qui font centre-périphérie, ça ne marche plus trop, parce qu'en fait, maintenant, la population, elle n'est plus exactement où elle était, comme ce que j'apprenais quand j'étais au lycée, hein, c'est-à-dire les gens avaient quitté les campagnes et puis ils se mettaient en première couronne pour aller travailler au centre-ville. Maintenant, c'est plus trop comme ça. Donc du coup, pour nous, la sobriété, c'est pas seulement du domaine de l'interdiction, c'est aussi des droits supplémentaires. Donc le droit à vivre en proximité, le droit à refuser un emploi s'il est trop loin de chez soi, puisque aujourd'hui, ça n'est plus possible. Pôle emploi n'accepte pas que vous puissiez refuser un emploi s'il est loin de chez vous. Le droit à télétravailler pour les 30% de la population qui peuvent le faire. Mais aussi d'autres droits. Le droit, par exemple, à échanger son poste de travail. Par exemple, les professeurs pourraient le faire pour se rapprocher de leur domicile. Et puis, ça va rejoindre une partie de ce que disait M. Villalba. Il y a une question d'équité. Parce que, donc je ne l'ai pas encore abordé, mais malgré tout, plus on est riche, plus on se déplace. Plus on se déplace vite, plus on se déplace loin, et donc plus on émet. Et donc le problème, pour revenir à la question de la taxe carbone telle qu'elle est envisagée, c'est que, bon, quand même, dans la sobriété, dans la première définition de la sobriété, il y a une dimension morale. Il y a un problème moral quand même à cibler dans les politiques redistributives une population qu'on serait censé aider, donc en gros la population la plus pauvre, alors que c'est celle qui pollue le moins. Donc, du point de vue éthique, par exemple, c'est ce que disent les gens du pacte civique, il faut quand même faire des politiques qui visent les populations qui posent le problème, et vraisemblablement une grande partie de nous tous. Donc, juste pour donner un chiffre, un riche qui habite en centre-ville émet à peu près 3 fois plus qu'un pauvre qui vit à la campagne, mais là, ce n'est pas seulement en termes de déplacement. Et donc, il faut aussi viser les grandes organisations et les entreprises. Et ça, en fait, je pense qu'il n'y a pas... C'est pareil, il ne faut pas y mettre de morale. Les entreprises, en fait, elles ont... Comment évalue leur activité, c'est la comptabilité. Et donc, tant que les externalités environnementales ne seront pas prises en compte par la comptabilité, y compris donc, les externalités liées au déplacement, il n'y a pas, quand même pas beaucoup de chances que leur système change, hein, sauf de façon marginale. Donc voilà, j'espère que... vraiment, je suis ouverte au débat, hein, sur toutes les propositions. Nous, il nous semble que c'est des propositions qui s'inscrivent dans les aspirations démocratiques des gens. Et la suite pour nous, c'est le comment du comment, en fait. C'est-à-dire que maintenant qu'on a en gros une sorte de programme et qui va à la fois dans le sens de la transition écologique et dans le sens de prendre en compte les aspirations des gens, comment on fait pour que les politiques se saisissent de ce sujet ? Et alors là, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, c'est que j'ai fait la tournée de toutes les équipes de campagne avec un faible succès, on va dire. Au moment des présidentielles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas du tout s'arrêter et qu'on a envie de continuer à défendre ce nouveau système.
Merci Sylvie. Alors deuxième fois qu'on le nommera, hier soir, Erwan Lecoeur nous a alerté sur le fait que la sobriété pouvait tendre vers une vision décliniste et que c'était peut-être un danger de nous amener gentiment de l'écologie au fascisme. Bon, il est là, il pourra toujours compléter. La problématique, c'est que malgré tout, moi, je me souviens d'une petite expérience quand on a parlé de couches lavables, d'une réaction extrêmement violente d'Elisabeth Badinter, qui, à l'époque, considérait que les couches permettaient la libération de la femme et que le fait de ramener la couche lavable, ça ramenait aussi la femme à sa condition de blanchisseuse, etc., etc. Et en fait, la problématique, c'est à quoi on renonce en tant qu'objet sans que ça nous amène sur un chemin où finalement on serait associé à une vision décliniste. Je fais juste un exemple à nouveau et je vous donne la parole. Dans le cadre de la campagne 5G, et une fois encore, nous avons un président de la République qui nous parle de sobriété et qui, parallèlement à ça, développe la 5G. Nous, on a trouvé ça. C'est pendant qu'on parle de sobriété, Pampers nous développe des couches connectées. Et on rigole, mais sauf que ce n'est pas une petite start-up qui développe ça. C'est-à-dire que l'avenir, ils sont en train de la dessiner. Et nos ennemis, on peut parler de sobriété, on peut inciter, on peut faire multiplier les conférences pour essayer de sensibiliser. La problématique, c'est que nous avons 3000 fois par jour des messages qui tendent à augmenter notre consommation. Donc la double question, c'est à quoi renonce-t-on et comment on interdit la pub ?
Difficile question. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Valérie Guillard. Je remercie beaucoup Jacques Archimbaud pour son invitation. Et merci beaucoup d'avoir créé cet espace sur la sobriété. Vraiment, c'est vraiment très, très plaisant d'entendre et de rencontrer des collègues aussi qui, entre guillemets, phosphorent sur ce sujet. Alors, moi, je parle en fait du marketing. Alors, ne me lancez pas des cahiers ou autres. Pas tout de suite, attendez quand même s'il vous plaît deux secondes et je travaille sur la sobriété depuis maintenant quelques années et je m'intéresse en fait aux pratiques des consommateurs donc avec vraiment un angle psychologie du consommateur pour comprendre vraiment des pratiques. Donc moi je vais être assez finalement un peu à râler-pâquerette, je m'excuse, et du terme et peut-être de l'intervention, je ne sais pas, mais pour vous donner des exemples, et parce qu'en fait Bruno a parlé de renoncement, Stéphane également, donc en fait l'objectif c'est de voir mais finalement comment en fait on pourrait devenir sobre et surtout quels sont les freins, quelles sont les difficultés à basculer dans un mode de vie sobre. Donc en fait, j'ai identifié, et attendez, j'ai pas mis mon chronomètre, excusez-moi, en direct, je le mets, parce que je ne sais pas combien je dispose de temps, mais 15 minutes, d'accord. Mais vous savez que les défauts des universitaires, notamment, c'est de beaucoup parler, donc je voudrais quand même pas trop monopoliser la parole. Alors en fait, ce que je vais illustrer, en fait, c'est ces difficultés à passer d'un mode de vie, entre guillemets, à un autre, tous ces constats, et puis avec peut-être des idées de politique publique, de recommandations à l'égard des organisations non marchandes, la société civile, des entreprises, bien sûr. Tout ça vient d'études qui ont été faites, de recherches, de contrats de recherche, notamment avec l'ADEME, mais pas que d'ailleurs, et de nombreux entretiens qui ont été faits plutôt avec des consommateurs. Moi, j'ai identifié notamment trois points que j'aimerais partager avec vous, et après, évidemment, entretenir d'une façon plus informelle si intérêt. Je pense que la sobriété... alors, je ne vais pas revenir du tout sur les définitions que je partage complètement avec Bruno et mes autres collègues. Je pense que la sobriété, pour la mettre en œuvre, elle nécessite de redéfinir des relations qu'on tisse au monde. Et il y a notamment trois relations. La relation au temps, la relation à l'argent et la relation à autrui. Alors rien que ça, vous allez me dire, c'est à peu près le cœur de notre vie, mais c'est vraiment ce qui ressort des études. Et vous voyez, je ne parle même pas des objets, alors que moi, tout ce que je peux observer, je le fais par le prisme de l'objet matériel. Voilà, donc là, je ne parle même pas de l'objet, mais en fait, l'objet, évidemment, il est présent partout. Donc je vais détailler en fait un peu ces trois points pour voir un peu, bah, voilà, encore une fois, les conditions. Bruno a parlé des conditions, bah, moi je vais parler aussi d'autres conditions, pas au même niveau d'analyse, mais finalement c'est aussi des conditions de passage à cette sobriété. Alors prenons par exemple le rapport au temps. Je pense qu'il va être nécessaire certainement de revoir notre rapport au temps. Alors en fait la sobriété, et je vais essayer évidemment d'aller un peu dans le positif, c'est-à-dire de voir mais finalement comment on pourrait avoir ce mode de vie sobre. Le mode de vie sobre, il me semble, qui passe par tout un tas de pratiques. Alors il n'est pas question de les lister ici, mais ces pratiques en fait on peut quand même les capturer via un mot, c'est le faire. Donc en fait, la sobriété implique souvent de faire et non plus de laisser faire ou de faire faire, et notamment de se dépouiller des compétences d'ailleurs qu'on n'a plus parce que ces compétences elles sont totalement abandonnées au marché depuis X années. Donc en fait, il y a plein de compétences d'ailleurs qu'on n'a plus. Alors pourquoi le faire ? Déjà parce que vous savez, et beaucoup d'auteurs l'ont écrit, hein, le manque de sens, d'ailleurs que les jeunes générations, alors manifestement j'ai compris qu'il y a les étudiants ici, mais que les jeunes générations ressentent, c'est le manque de sens parce qu'une vie ou un travail très abstrait. Et finalement, les gens ont, alors quand je veux dire j'ai les gens, c'est autant les étudiants que bien sûr vous, ont besoin d'avoir finalement de revenir sur des compétences, de revenir sur du concret. Et ce faire, en fait, je trouve qu'il est assez, il y a des côtés assez positifs, même s'il y a des zones d'ombre, évidemment. Pourquoi ? Parce que non seulement, bon, encore une fois, avoir des compétences, c'est toujours agréable de faire. Alors, bien évidemment, ce que vous allez faire, si je prends la cuisine, ça ne va jamais ressembler à ce que vous devriez pouvoir faire. Mais n'empêche qu'il y a quand même un côté assez gratifiant et beaucoup plus gratifiant de faire que d'acheter, souvent. Mais par contre, le faire demande du temps. Il demande des compétences, il demande du temps et il demande des efforts. Et ce temps pendant lequel vous allez faire, évidemment, c'est un temps que vous n'allez pas faire autre chose. Donc ça veut dire qu'il y aura un renoncement. On en revient sur le renoncement. Il va falloir faire des choix. Et qui dit un choix, vous savez qu'un choix, c'est un renoncement. Le côté positif, c'est, alors encore une fois, un, individuellement, la gratification. Deux, le partage. Je prends juste un exemple. Quand vous allez dans un Ripper Café, parce que votre, si tant est qu'il soit réparable, votre grille-pain, mais c'est du vécu, votre grille-pain tombe en panne. Donc vous êtes au Ripper Café. Il y a, ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a des gens de tout horizon qui sont là pour vous aider à réparer. Déjà, ils ne font pas votre place. Déjà, vous allez mettre souvent, enfin, ça dépend de l'organisation, mais parfois, ils ne font pas votre place. Et en fait, donc, vous allez rencontrer des gens que vous auriez certainement jamais rencontrés. En tout cas, moi, je pense. Peut-être pour moi. Pourquoi ? Parce qu'on n'évolue pas dans les mêmes niveaux sociaux, c'est pas peine de se le cacher, on se le sait. Et donc, en fait, il va y avoir des espèces de rencontres, alors c'est vrai pour les jardins partagés, c'est vrai pour d'autres lieux, hein, avec des gens que vous auriez jamais rencontrés, et par contre, il y a un truc qui se passe là, il y a un échange de services qui se passe. Alors, c'est très minoritaire, parce que là, encore une fois, les collectivités locales ont un vrai rôle à jouer, ne serait-ce que de mettre à disposition un lieu, déjà pour commencer, mais bon, c'est pas le sujet de mon propos. Et ici, en fait, donc le faire, vous voyez, il permet effectivement de faire rencontrer des gens, de faire de la transmission sur, voilà, avec des personnes qui, encore une fois, n'auraient pas forcément, dans la société qui est la nôtre, pu ou dû, je sais pas comment le dire, se rencontrer. Donc le faire, en fait, il peut être une façon d'être dans la sobriété, mais attention à ce rapport au temps, parce que faire, encore une fois, demande de repenser son rapport au temps, parce qu'encore une fois, ce sera toujours plus long de faire que d'acheter et d'aller effectivement sur le marché. Ici, je fais juste une petite parenthèse parce que je pense qu'elle mérite d'être dite, puisque en fait, Sylvie en a parlé. Qui dit faire dit attention, j'ai envie de dire, aux stéréotypes de genre. Vous savez que faire, c'est souvent, excusez-moi, alors là, je vais me prendre une double, peut-être un double lancé de je ne sais quoi, mais le faire et notamment les charges mentales écologiques sont quand même assez souvent, l'apanage des femmes. Et effectivement, ici, dans le faire, ça ne veut pas dire qu'il y a certes une domestication certainement de la vie. Est-ce qu'on en a envie ? Ça, c'est la question que Bruno posait, etc. Est-ce qu'on en a envie collectivement ? Est-ce que c'est un choix de société ? Ça aussi, effectivement, ça doit être discuté. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a aussi dans le temps, la répartition du temps, ça passe aussi par la répartition du temps genré aussi. Donc, des discussions et donc, effectivement, là encore, voir des négociations au sein. Effectivement, là, on est vraiment dans l'intime, on est dans l'infra-ordinaire, quoi. On est moins à ce niveau-là. Donc, ça, c'était la première idée. Et si je rebondis aussi sur ce qu'a dit Sylvie, ne serait-ce que pour une répartition du temps, je pense aussi au temps de transport. Le temps de transport, souvent, la plupart des personnes disent « Je ne veux pas prendre les transports en commun parce que je vais mettre deux fois plus de temps. » Alors, en général, c'est pas deux fois, mais si on va dire 30% de plus du temps qu'y aller en voiture. Oui, mais comment on peut, quel imaginaire pouvons-nous créer pour vous dire que, et pour nous dire que dans le temps de transport, on peut faire des choses. On peut rien faire déjà. Je sais pas vous, mais je sais pas si vous avez du temps à rien faire. Je pense que c'est assez rare. Donc on peut ne rien faire. On peut regarder un petit documentaire, parce que maintenant on a des outils pour ça. On peut lire, bien sûr. On peut, voilà, pourquoi pas discuter, après tout, pourquoi pas. Donc en fait, comment créer cet imaginaire de le temps de transport peut être un temps positif, constructif. Et ça, bon, il y a du travail, mais on ne le voit pas comme ça et on ne le présente pas comme ça, on ne communique pas comme ça. Deuxième point que je voulais développer ou que je vous proposais comme ça pour ou pas discussion, c'est, et là ça c'est quelque chose aussi de très massif, hein, mais de toute façon tout est massif pour changer de mode de vie, c'est notre rapport aux normes sociales et notre rapport à autrui. Alors là je vais juste prendre quelques petits exemples et là où ça pourrait être des pratiques de sobriété tant au niveau des émissions, bien sûr, de la pollution, le CO2, mais tant aussi au rapport au vivant, hein, quand je pense au vivant, je pense aux insectes, etc. La première chose à laquelle je pense, c'est pas du tout dans l'ordre évidemment, c'est les pratiques d'échange. En fait, pourquoi, et ça on le sait tous, pourquoi acheter une tondeuse à chacun dans les pavillons, chacun une tondeuse, alors qu'on pourrait prêter, se mutualiser les tondeuses. D'accord ? Ça pose un vrai problème. Et ça pose alors plein de problèmes, notamment si je prends une tondeuse, si je vais la demander à autrui. Déjà, est-ce qu'il va être disponible ? Il faut que j'anticipe. Il faut que je parle parce que je ne vais pas prendre sa tondeuse et partir. Donc, il faut que j'écoute peut-être ses doléances. Je n'ai pas forcément envie. En fait, ce que je vous raconte, c'est encore une fois, c'est à râler pas crête, mais c'est ça, les freins. Ce sont les freins qui conduisent les gens à acheter une tondeuse. Et en fait, dans ces pratiques d'échange, bon, maintenant, il y a des associations qui permettent de cadrer cela. Je ne sais pas si on en a besoin en plus, mais n'empêche qu'il y a des plateformes qui permettent de cadrer ça. Il n'empêche que ces échanges pour moi, il me semble que ça va dans le bon sens. Les voitures partagées, les tondeuses partagées, les perceuses, on ne va pas faire la liste de tout ce qu'on pourrait partager. Peut-être pas les conjoints quand même. Là, j'irai pas jusque-là quand même. Mais ceci dit, excusez-moi, je suis peut-être un petit peu trop traditionnaliste, mais c'est un autre débat. Je crois que c'est un autre débat, manifestement. Je ne vais pas arriver là-dedans. Parce que là, on va un petit peu digresser. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça peut être une façon de transformer nos modes de vie qui sont effectivement moins, encore une fois, on va moins puiser sur les ressources naturelles. Et là encore, d'ailleurs, je vais lier les deux, hein, là aussi, ça se demande du temps. Deuxième point, toujours dans ces normes sociales et dans les liens à autrui. Moi, actuellement, je travaille avec l'ADEME sur les objets d'occasion, parce que ça, c'est une vraie question. Il y a des marchés, etc. D'ailleurs, ça a été aussi instrumentalisé, repris par beaucoup d'enseignes, et pourquoi pas, finalement. Mais dans les objets d'occasion, qui, et là, nous sommes mi-octobre, donc ça, je vais peut-être presque vous poser une question intéressée, qui va pour Noël, parce qu'on s'y approche doucement, acheter un objet d'occasion. Et ça, vous voyez, ça, c'est bousculer les normes sociales. C'est même un livre où il n'y a vraiment aucun problème, entre guillemets, de rien sur un livre d'occasion, eh bien, on hésite encore pour sa belle-mère, son beau-père, ou ne serait-ce que son frère ou je ne sais qui, on hésite effectivement à l'acheter d'occasion. Alors, peut-être pas vous, parce que si vous êtes ici, vous êtes convaincus, enfin, du moins, vous avez des vraies convictions, mais effectivement, c'est loin d'être le lot de toute la population. Et aussi, je parle des livres, parce qu'en plus, les livres, c'est ce qu'on achète d'ailleurs le plus d'occasion, donc mon exemple n'est finalement pas très bon, mais du reconditionné, qui a un portable reconditionné, qui achète effectivement des habits, à part effectivement les étudiants, où les étudiants achètent beaucoup effectivement de vêtements d'occasion. Alors le vêtement d'occasion, ou alors l'occasion, attention parce qu'il est sur le fil du rasoir, hein, l'occasion, il est dans la voie de la sobriété, dans le sens où évidemment on puisse quand même moins de matière et on pollue moins. Cependant, évidemment, il y a des effets rebonds. Hein, tout ce qu'on achète d'occasion, c'est beaucoup moins cher. Et donc, ben, on peut être dans une surconsommation d'objets. Regardez, excusez-moi, je veux dire quand même l'exemple auquel vous pensez tous, hein, la plateforme Vinted, évidemment. On est dans une espèce de surconsommation, alors que, effectivement, c'est de l'objet d'occasion. Donc, l'objet d'occasion, en fait, il permet, je pense, il est dans la voie de la sobriété, parce que pour moi, la sobriété, c'est pas de souci, c'est un cheminement. Mais effectivement, ça demande, encore une fois, une redéfinition et un autre rapport aux normes sociales. Je dirais une troisième, il me reste 2 minutes, c'est parfait. J'ai envie d'une troisième idée. Et là, peut-être qu'effectivement, elle est un peu plus certainement contestable, ou du moins, elle n'est pas du tout actuelle d'ailleurs, je pense. Mais c'est le rapport à l'argent et notamment le rapport au prix. En fait, j'ai envie d'antidater ce que je vais dire, parce qu'aujourd'hui, évidemment, avec les prix de l'énergie, les prix qui augmentent, etc., le prix, c'est un sujet extrêmement sensible. Mais lorsqu'effectivement, des personnes, on va dire, qui ont plutôt un pouvoir d'achat, on va dire, correct, ont une défiance par rapport aux entreprises, et notamment aux entreprises qui vendent des produits éthiques. Alors, les produits éthiques, effectivement, alors qu'est-ce qu'un produit éthique ? C'est un produit qui va rémunérer de façon, équitable, notamment les agriculteurs, ce que je pense à C'est qui le patron, par exemple, voilà, une marque C'est qui le patron, donc une marque de lait, gâteau, je crois qu'ils font les deux. Et en fait, ces produits sont, en général, les produits éthiques sont des produits un peu plus chers. Et en fait, il y a vraiment, et même les vêtements qui sont fabriqués, qui sont conçus en Europe, assez peu en France encore, mais en Europe, évidemment, ils sont plus chers à l'achat. Alors, même si certaines entreprises, et je pense à certaines marques, sont transparentes dans leur site, vous voyez combien a coûté la matière première, combien a coûté le transport, etc., c'est très minoritaire. Et le consommateur est encore défiant par rapport à cela. Comment on peut sensibiliser à la qualité d'un produit, à la qualité de sa chaîne de valeur, à la qualité des personnes qui auront travaillé dans le produit, en acceptant pour ceux qui en ont les moyens, bien entendu, de payer un peu plus cher ce produit-là, et donc de ne pas être en défiance par rapport aux entreprises et à ce qui est proposé sur le marché. Ça demande du temps, ça demande de la recherche. D'ailleurs, consommer devient très intéressant, parce que si vous prenez toute votre liste de... Alors, il faut qu'il soit fait en Europe, il faut qu'il vienne de matière recyclée. Moi, ça me prend en général 3 semaines d'acheter quelque chose en ce moment, parce que c'est très long. Ça tombe bien, parce que vous allez me dire, j'ai le temps. Non, mais je le prends. Voilà, je le prends et en fait c'est assez intéressant parce qu'on apprend plein de choses. Consommer devient plus quelque chose de, j'ai envie de dire, de non pensé, devient quelque chose de un acte pensé. Franchement, ça devient intéressant. Mais le présenter comme ça, pour l'instant, ce n'est pas fait. Et comment en fait on peut communiquer comme ça ? Je pense notamment à des organisations non marchandes comme Zero Waste par exemple, à plein d'organisations dont leur cœur est évidemment la sensibilisation. Dans ces thématiques-là. Voilà, pour conclure, et je n'arrêterai là, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de communiquer les bénéfices de la sobriété et comment, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour adoucir, encore une fois, toutes ces thématiques, normes sociales, temps, et ça, c'est vrai que c'est... Et moi, j'aime beaucoup ce qu'a dit Bruno sur, effectivement, et d'ailleurs Sylvie aussi, enfin tout le monde ici le dit, la justice sociale, comment effectivement on peut créer des collectifs pour parler de ces sujets, parce que c'est évidemment de là que ça doit venir, évidemment. Merci beaucoup.
Merci. Bon, je retiens que pour atteindre la sobriété heureuse, nous allons devoir créer des clubs échangistes. On doit à Jacques Ellul une formule, c'est penser globalement, agir localement. Je vous propose de passer la parole quelques minutes aux membres du groupe témoin qui a construit les questions, parce qu'en fait, c'est un concentré d'expériences locales. Marie-Océane, Atelier Paysan, si tu veux juste nous dire ce que vous faites en tant que structure vis-à-vis du milieu agricole.
Donc nous, on est une entreprise et pas une association, comme ça a été dit hier. Donc on est là pour accompagner les agriculteurs à se former, à reprendre en fait les savoirs et les savoir-faire. Donc ça reprend plein de choses qu'ont dit nos intervenants, à la fois de prendre le temps de le faire soi, pour pas ni faire, notamment autour de la réparation. C'est aussi acquérir la liberté de son choix technique, puisqu'on adapte l'outil au modèle agricole et à la volonté, aux besoins d'ergonomie. Donc aussi, on dégenre les tâches. Nous, on travaille à faire de la mise en plan qu'on met en accès libre sur notre site internet. Donc là-dessus, on n'est pas très sobre. On travaille le métal, donc on sait aussi qu'on n'est pas très sobre là-dessus. Et on se déplace beaucoup, puisqu'on a trois ateliers fixes, un à Grenoble, en tout cas à côté, un en Bretagne, un en Occitanie, et on a sept camions ateliers. Donc en fait, on va aux agriculteurs pour les aider à apprendre à maîtriser le travail du métal. En fait. Et que ce soit pour l'outil ou le bâti, on a un petit millier de plans disponibles. Donc ça marche pour le jardinier du dimanche aussi. On a aussi des outils informatiques en libre pour la gestion du maraîchage, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment réappropriation des savoirs et des savoir-faire, et c'est par cet aspect-là qu'on pense apporter de la sobriété. Et puis ces quelques dernières années, un ou deux ans, on a travaillé aussi à produire de la donnée scientifique, de la donnée en sociologie aussi, autour de cet impossé politique qu'est la machine en agriculture et de tout ce qu'elle a induit dans le modèle de consommation, de surconsommation, etc. etc. Donc je vous laisse, on n'est pas présent à la librairie, mais reprendre la terre aux machines aux éditions Anthropocène du Seuil, voilà. Et c'est l'atelier paysan.
Et Aline, si tu veux, alors Aline Vu, qui est tout à la fois élue à Cluny en charge de la transition écologique et une des animatrices de la fresque pour le climat, si tu veux nous...
D'inventons une vue bas carbone. Oui, alors merci tout d'abord pour effectivement toutes les interventions, les présentations, etc. Je m'inscris un peu en faux dans... Enfin, je rejoins tout à fait les définitions qui sont très intéressantes et l'approche de la sobriété. Je partage plutôt l'avis d'orienter vers la communication sur les bénéfices de la sobriété, puisque en tant qu'être humain, on cherche toujours le moindre effort et quelque chose de plaisant et une reconnaissance sociale, d'où un fort enjeu de pouvoir trouver son compte. Tout l'enjeu d'effectivement arriver à respecter la loi française et donc passer de 10 tonnes à moins de 2 tonnes de CO2. Et il y a un outil pour ça qui a été créé, qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone et qui a l'avantage d'être complètement à l'échelle. Je pourrais vous le montrer pour ceux qui sont intéressés. Et toutes les cartes sont à l'échelle et permettent de voir quels sont les ordres de grandeur dans les domaines qui ont été évoqués et qui ont fait l'objet des discussions, autant sur les transports, évidemment avec la voiture qui représente une grande place, l'alimentation, logement, consommation, dont on a parlé aussi évidemment beaucoup, et les services publics qui existent et qui émettent aussi des gaz à effet de serre. Tout l'enjeu étant d'arriver à faire rentrer donc un mètre, puisque toutes les cartes sont à l'échelle, dans moins de 17 cm d'ici 2050. Cet atelier permet en sous-groupe d'aborder ces différentes thématiques et d'arriver à tracer un cheminement, de voir que c'est progressif. Évidemment, l'objectif, c'est pas de faire rentrer un mètre dans 17 cm en 3 ans, ni en 10 ans, mais par contre en 20-30 ans. Et d'y arriver évidemment collectivement, c'est montré à l'échelle individuelle, puisque c'est ce qu'on perçoit, c'est facile de comprendre le nombre de, si on dit faire 10 000 km par an avec une voiture amortie sur 30 ans, tout le monde voit ce que ça veut dire. Si on parlait en nombre de kilomètres à l'année pour tous les habitants de cette planète, ce serait plus compliqué, sachant que cet objectif de 2 tonnes de CO2 équivalent, et ça rejoint une des interrogations qui a été posée tout à l'heure, c'est bien à l'échelle planétaire. Donc on est dans un enjeu de justice sociale et il ne s'agit pas pour nous de simplement faire un peu moins en conservant la misère qui existe dans plein d'endroits du monde encore aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est de pouvoir incarner, évidemment. Il ne s'agit pas de prêcher simplement la bonne parole, mais de la mettre en pratique. Et l'enjeu, il me semble, c'est effectivement pas d'opposer action individuelle et action collective, mais bien d'avoir les deux. J'aime souvent bien donner cet exemple en tant que politique, d'avoir la volonté de mener un certain nombre de projets, mais d'avoir comme frein soit d'autres élus, soit des citoyens. Et donc là, ça peut être compliqué. Et à l'inverse, on a évidemment un certain nombre de citoyens dont vous faites peut-être partie, qui essayent de pousser les choses et qui trouvent que les politiques, certains politiques, la plupart, ne vont pas assez loin. Et donc, on utilise cette image des deux jambes d'une même personne, action individuelle et action collective, donc à ne pas opposer et qui permettent d'avancer vers du concret. Et évidemment, la sobriété, mais la sobriété, comme ça a été dit, vers du mieux, parce que je donne souvent cet exemple dans notre pays, avec un fort taux d'obésité infantile, des cadres et des agriculteurs qui se suicident. Voilà, premier pays consommateur d'anxiolytiques en Europe, etc. Je pourrais continuer la liste. Donc peut-être arrêtons de nous mentir que nous vivons bien. Peut-être nous avons cette chance et encore avec un certain nombre de limites. Voilà, je rejoins le penser global, agir local.
Et dernière intervention de Michel Maya, donc notre avant-garde écolo, maire de Tramail, qui a expérimenté la sobriété depuis ses 20 ans, 15 ans.
Ça, tu m'as donné 2 minutes pour résumer 20 ans, c'est ça, hein, on est d'accord.
Pas plus de 2 minutes d'ailleurs.
Voilà. Il faut être sobre, oui, c'est ça. Simplement pour dire qu'effectivement, on a mis des actions en place au niveau de la municipalité de Tramail, ce qui permet de dire que pour l'instant, on est la seule municipalité de France de plus de 1000 habitants à ne consommer que de l'énergie renouvelable. Ce qui est particulièrement intéressant. Ce qui est particulièrement intéressant à un moment où les prix de l'énergie ont un peu tendance à s'envoler. Parce que nous, on est très, 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 très stable. Alors, on a mis en place des actions de sobriété, mais surtout, ce qu'on a mis en place, c'est le triptyque mégawatt, en fait. Parce qu'on a parlé beaucoup de sobriété, on n'a pas parlé d'efficacité, pas trop, tout du moins. On l'a sous-entendu. Et dans ce que nous avons mis en place, effectivement, alors, en sobriété, il y a des actions très simples. Et je ne sais pas pourquoi, pour l'instant, il y a beaucoup d'élus qui sont en train de la découvrir. C'est l'extinction de l'éclairage public. Il leur aura fallu des dizaines d'années pour y arriver, ou plutôt un signal prix. Bon, donc ça, c'est vraiment de la sobriété. Après, vous avez des actions d'efficacité. Et sur les actions d'efficacité, c'est par exemple rechanger vos vieilles lampes par des LED. Et là, vous êtes dans l'efficacité. Et nous, par exemple, au niveau de la commune de Tramail, sur le vecteur électrique, on est passé de 400 mégawattheures en 2007 à 117 mégawattheures en 2017 et on n'a toujours pas acheté de bougies.
Voilà, bah, je vous propose un petit quart d'heure de questions, donc des questions courtes et des réponses non moins courtes.
Alors, moi c'est juste une question effectivement, mais qui nécessite d'abord une remarque et un remerciement. Merci d'avoir évoqué au tout début, monsieur, j'ai oublié votre nom, désolé, des philosophes, parce que je vais faire mon philosophe de service, je suis là. Je vais faire mon philosophe de service et effectivement, ça fait plaisir d'entendre que le thème de la sobriété a été inventé au moment où s'est inventée la philosophie, c'est-à-dire précisément où on s'est demandé quelle vie valait la peine d'être vécue. Et précisément où on s'est demandé aussi quand on profite d'un bien, il ne faut pas s'occuper de l'ensemble des conséquences et des provenances de ce bien. Et notamment, parmi ces conséquences, il y a la frustration générée par l'addiction à ce bien. Et en réalité, voilà, c'est exactement le raisonnement. Par contre, du coup, je me demande pourquoi on parle de jouissance modérée. Parce qu'en réalité, c'est une problématique de la maximisation de la jouissance. C'est une problématique de l'amélioration de sa propre existence. Et d'une question qu'on se pose tout simplement de savoir comment on rend sa vie meilleure que celle qu'on vit. Et je suis toujours du coup étonné et j'ai beaucoup apprécié tous les moments où on a dit il faut insister sur la sobriété heureuse, il faut insister sur la sobriété positive. Mais c'est encore timide, moi, je trouve. Parce que précisément, la sobriété heureuse, c'est placer la question de l'existence la meilleure au centre des débats démocratiques. Et là, on en est loin. Pourquoi est-ce qu'on parle encore d'efforts à répartir? Pourquoi est-ce qu'on parle encore de renoncement et d'être capable de faire ces renoncements? Pourquoi est-ce qu'on parle de petits ajustements de peur que, effectivement, on les fuit, les moyens de produire la sobriété? Non, allons-y carrément. Le choc écologique est enfin l'occasion historique de se poser la question de savoir quelle vie vaut la peine d'être vécue, d'en refaire le centre du questionnement politique, parce que nos ennemis sont contredits par les faits.
Alors la chute va être brutale, je suis nettement moins philosophe que l'intervention précédente. En écoutant vos trois exposés, je me suis posé la question de savoir si une distinction entre produits matériels et services était pertinente. Alors, c'est Valérie Guillard, je crois, qui a le plus touché un tout petit peu cette notion de service. C'est pas triste quand même d'essayer de distinguer les choses. Il est facile d'imaginer une sobriété, l'une des deux évoquées par Bruno Villalba, sur les biens matériels. C'est un peu plus délicat si on se pose la question des services. Et on est dans une société où 70% de l'activité, c'est des activités de service. Je vais un peu moins chez le coiffeur. C'est pas très difficile pour moi, d'accord, mais bon. Est-ce que je vais un peu moins chez le médecin ? Est-ce que je me passe complètement d'un conseil juridique quitte à faire d'une grosse boulette ? Vous voyez le type de questions qu'on peut être amené à se poser. Alors je vous la renvoie, sachant quand même que, je termine juste là-dessus, les services rendus aux personnes ou aux organisations, entreprises, collectivités, etc., ont le plus souvent besoin d'un minimum de matérialité. Le stéthoscope de mon médecin, la tondeuse de mon coiffeur, etc. Voilà.
Sobre en question. Allez, bah, je vous propose de répondre.
Je vais répondre notamment effectivement à monsieur. Merci beaucoup pour votre question. Alors en effet, on n'a pas trop évoqué les services, même si, attention, enfin, il me semble qu'on doit, on doit revoir son mode de vie à partir du moment où un produit ou un service a un impact sur le vivant. Négatif. Parce qu'en fait, dans les services, quand vous me parlez effectivement de votre chez votre coiffeur, je ne sais pas si vous en avez besoin là, bon, ça c'est une autre discussion, mais en tout cas, là, en quoi finalement, en général, on va chez... En fait, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que la sobriété, c'est se questionner sur nos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'aller chez le coiffeur ? Voilà. Oui, non. Et à partir de ça, effectivement, normalement, on va... Voilà, on ne sait pas. Bon, là, on ne va peut-être pas trancher. Chez le médecin, c'est pareil. Enfin, vous voyez, c'est la notion de besoin. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile, parce qu'un besoin, c'est tellement compliqué de savoir de quoi on a besoin, en fait. Parce qu'en général, c'est beaucoup des choses beaucoup plus intériorisées et intimes la façon dont on veut bien la matérialiser. Par contre, vous avez complètement raison. La sobriété, elle passe... Enfin, c'est très vaste, en fait, comme question, mais c'est une très, très bonne question. La sobriété, en fait, elle passe aussi par la création de services. Prenons la réparation. Prenons effectivement ce service-là, puisque ça a été effectivement évoqué. La réparation, en fait, il y a maintenant des entreprises qui envisagent d'ici à très court terme de ne plus produire des biens matériels, mais de passer sur des services de location, et de garantie pour réparation, etc. Même si ça pose des problèmes de main-d'œuvre, ça pose plein de problèmes, en fait. Enfin, ça pose plein de questions pour l'instant. Donc, effectivement, vous avez raison. Et là, de quel service on parle ? Parce qu'on peut aussi parler des services de transport, on peut parler de l'avion, parce qu'on va dire que c'est un souci. C'est un service. Vous voyez, on peut parler de plein de... Je pense que ça mériterait d'avoir une typologie de service et de regarder, en effet, comment... Enfin, lesquels il faudrait effectivement renoncer. Alors, c'est pas le bon mot, en effet, mais moi, je pense qu'il y a quand même un renoncement à quelque part. Même s'il est infime, je pense qu'il y a... Au début, il y a un renoncement. Moi, si vous m'enlevez mes bouteilles d'eau gazeuse, ben, c'est un renoncement. Vous voyez, je me dis, oh, c'était tellement bien quand même, il faut que je fasse autre chose. Mais vous voyez, il y a un petit renoncement. Puis après, oui, bien sûr, je vais sur autre chose. Donc, effectivement, votre question, excusez-moi, je mélange tout. Mais votre question, elle est très, très juste. Et à partir du moment où il y a, encore une fois, il y a moins de conséquences sur le vivant, pourquoi remettrions-nous en question les services, sachant que les services médicaux, il faudrait peut-être pas trop les remettre en question, mais plutôt effectivement travailler pour. Et puis, je pense que on peut pas répondre d'une façon générale, parce qu'effectivement, ça dépend les services. En effet, de quoi parlons-nous ? Mais merci pour votre question, vraiment.
Donc du coup, moi, je peux pas du tout répondre en fait, parce que je dirais c'est un niveau d'abstraction qui m'échappe totalement, très honnêtement. Pourquoi ? Parce que si je reviens à ma question des déplacements. C'est quoi la quantité, hein ? Et donc, je sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai du mal à m'inscrire dans cette problématique de besoin, de renoncement, etc. C'est quoi, en fait, les kilomètres parcourus qui posent problème ? Et le problème écologique, c'est juste, en fait, les kilomètres motorisés. Hein. Donc, peut-être que moins de kilomètres motorisés en voiture individuelle, c'est plus de. C'est vraisemblable, hein, plus de, comment, de kilomètres parcourus collectivement dans les transports collectifs. Mais est-ce que pour autant on peut dire, je sais pas, c'est moins de matériaux, plus de services. Franchement, je sais pas. Donc, en tout cas, juste, j'en profite parce que je sais qu'après, je dois rendre la parole. Donc, si certains d'entre vous, donc, à partir du programme, entre guillemets, qu'on a bâti sur la base des désirs des citoyens qu'on a consultés, hein, la question qui reste au cœur maintenant, c'est celle du colloque. C'est-à-dire, c'est le comment du comment. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait quel programme, ou plus ou moins quel programme il faudrait faire, comment on obtient qu'il soit réalisé. Et donc, si cette question vous intéresse, je vous invite à aller voir Mathieu Bloch. On va essayer vraiment toute l'année qui vient de réfléchir à des dispositifs d'action pour obtenir les décisions. Je ne sais pas si on va y parvenir, mais en tout cas, on va travailler vraiment sur ce sujet-là.
Merci pour la question philosophique. Alors, c'est bien la première fois que j'interviens sur la sobriété qu'on me dit que je suis dans une sobriété heureuse. Alors, là, j'avoue que c'est pas exactement ce le propos. Je ne pense pas que la sobriété heureuse soit une réponse adaptée. La sobriété heureuse, ce serait une sobriété choisie, mesurée, avec une espèce de pratique conviviale partagée par tous, négociée de manière non conflictuelle, etc. J'y crois absolument pas parce qu'on a des appétits consuméristes bien ancrés. On a un besoin aussi de justice sociale qui mobilise aussi l'idée que la sobriété est contre-productive sur le plan de l'équité sociale. Bref, il y a des tas de raisons qui poussent sur l'idée que s'inscrire dans un registre, un récit de la sobriété heureuse, c'est continuer à différer des décisions qui vont être des décisions brutales qu'on va devoir prendre si on veut passer dans une sobriété finalement qui maintienne les tensions sociales, quoi. Et on l'a bien vu au moment des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est une revendication d'intégration sociale. C'est vous nous avez promis l'abondance, nous n'avons pas accès à cette abondance et nous voulons légitimement y participer parce que vous nous avez juridiquement, démocratiquement promis cette abondance. Et donc ce décalage, on voit bien qu'à partir du moment où on construit les termes de l'équité et de la sobriété sur une base qui n'est pas durable sur le plan écologique, on va devoir faire des rééquilibrages qui vont être assez compliqués à faire. Donc oui, la sobriété, elle ne sera pas heureuse, mais elle est nécessaire si on veut, encore une fois, que chaque individu sur la planète Terre ait accès à un minimum vital de vie. Il y a bien la question de la répartition de ce que l'on va produire. C'est pour ça que moi, la rhétorique de l'ennemi, ça me met très mal à l'aise, je dois vous l'avouer. Depuis hier, on entend parler des capitalistes, les riches, les machins, les pauvres, etc. Comme on est dans une situation partagée, malheureusement, on est dans un destin commun, OK, on va prendre aux riches pour donner aux pauvres, et une fois qu'on aura donné aux pauvres, qu'est-ce qu'on fera ? C'est-à-dire combien de temps vous allez maintenir dans le temps long la possibilité de chacun à pouvoir se développer en conscience, en autonomie. Je vais prendre un exemple tout bête. Hein. La raréfaction des ressources naturelles, c'est ça ce qu'on appelle les limites planétaires. Alors on dit il faut faire mieux avec le pétrole, ok, avec le gaz, ok, avec l'uranium, ok. Mais on sait très bien que dans 100 ans, dans 200 ans, même si on optimise les process, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, il n'y aura ni gaz, ni pétrole, ni uranium, ni lithium, ni cobalt, etc. etc. Okay ? Et maintenant, nous allons aussi accroître la charge de responsabilité qu'on transmet aux générations futures. Vous n'aurez ni pétrole, ni gaz, ni machin, mais en plus, vous devrez gérer les centrales nucléaires, les disséminations chimiques, la raréfaction des sols, l'artificialisation des sols, l'acidification des océans, et maintenant, imaginez des solutions avec ça. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, si on construit une sobriété qui continue à différer l'idée qu'on va pouvoir maintenir une cohérence entre, d'un côté, la raréfaction des ressources, l'augmentation de la pression de la population mondiale et l'aspiration légitime à un confort de vie pour chacun d'entre nous, eh bien, il y a une équation que moi, je ne vois pas encore se réaliser. Sauf à considérer qu'il faut rentrer dans une politique de décroissance rapide, radicale, négociée, bien évidemment, avec des politiques de taxation, des politiques d'incitation aux pratiques sociales. Ce n'est pas très réjouissant, mais encore une fois, c'est ce que nous disait déjà René Dumont en 1974, si nous ne prenons pas des mesures d'urgence pour nous adapter à notre confort, à notre situation de vie objective, eh bien nous allons aller dans des situations de conflit et de violence où là, on verra l'arbitraire, où là, on verra les rapports de force se mettre en place. Et je ne pense pas que ce soit une solution favorable ni aux individus et ni aux non-humains. Ce n'est pas très réjouissant, mais je pense que c'est pour ça que je ne voulais pas laisser l'ambiguïté sur l'idée que je développais l'idée d'une sobriété heureuse.
Quelle bonne idée de lancer le débat à 4 minutes de la fin. On reprend une toute petite salle de questions et après vraiment donc 4 minutes, donc questions courtes, réponses hyper courtes.
Moi j'avais une question parce que j'ai le sentiment que depuis 40 ans, depuis un peu plus, hein, avec le capitalisme, on nous pousse à une augmentation, à une démocratisation du gaspillage, donc en opposition à cette volonté de sobriété heureuse. Stéphane en parlait si bien avec le déploiement de la 5G, mais se pose quand même, je ne sais pas quels sont les leviers qu'on peut avoir par rapport à l'obsolescence programmée. On parlait d'ateliers de réparation, mais quand on ne trouve plus les pièces pour réparer notre ordinateur ou qu'on a un ordinateur, par exemple, qui fonctionne très bien, mais qu'on nous dit qu'il ne fonctionnera plus pour ouvrir tel ou tel logiciel dans quelques mois, ou tel téléphone où on ne peut plus installer la super appli qui nous permet de communiquer ou d'installer l'application Vinted ou d'autres. C'est quoi les leviers qu'on a pour lutter contre cette course technologique des téléphones qui ne fonctionneront plus d'ici quelques mois, parce que si on n'a pas la 5G, on n'aura plus accès à certains... On parle de sobriété, mais en même temps, on nous pousse tout le temps à consommer, acheter, et comment on peut faire pour influer pour que les politiques changent cette vision surconsommatrice et pro-gaspillage.
Voici venu le temps de la frustration. Dernière question hyper courte et je vais être le stalinien de base dans moins de 30 secondes.
Merci d'avoir pris ma question. Beaucoup d'écologistes, dont moi, ont du mal à se positionner vis-à-vis des mouvements comme ceux des Gilets jaunes parce que le sentiment de pauvreté est d'autant plus fort quand il est vécu dans un sens d'inégalité. Autrement dit, la pauvreté, c'est d'abord la pauvreté en comparaison avec. En prenant un exemple très concret, le nôtre, mon épouse et moi, à force de sobriété et d'efficacité, nous avons ramené notre budget transport, chauffage, électricité à 40 euros par mois, sans la bougie, comme l'a dit Michel. Mais transmettre ça, c'est particulièrement difficile. Les gens qui viennent à nos ateliers sont plutôt des cadres. Ce ne sont jamais les gens qui sont au rond-point. Comment on fait ?
Obsolescence programmée, compétition ostentatoire.
C'est compliqué, là. C'est challenge. Pour l'obsolescence programmée, donc évidemment complètement d'accord avec vous. Il y a des associations haltes à l'obsolescence programmée qui militent et surtout font plus que militent, qui font du plaidoyer et donc réussissent à faire passer des lois, notamment une partie dans la loi AGEC pour limiter effectivement l'obsolescence programmée. Je ne vais pas dire que ça va aller mieux, hein, parce que Apple dans son X, je ne sais pas le dernier là, il n'y a plus rien qui est réparable, il n'y a plus rien qui est démontable. Mais n'empêche, alors lui c'est une marque, on va dire un peu à part. Sinon, on arrive effectivement en achetant nous-mêmes aussi des objets assez simples. Je pense au Fairphone, excuse-moi, quand on était dans le téléphone, c'est bien l'esprit, qui est complètement réparable, démontable, même pour quelqu'un qui, enfin vous et moi, enfin moi j'y connais rien, mais on va dire voilà. Donc en fait, je pense que voilà, ça, il y a des associations, ça faut pas, il y a une vraie force aussi des sociétés civiles qui vous font bouger les choses. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je sais pas si j'enchaîne. Je suis complètement d'accord avec le monsieur. Comment on fait? Peut-être, moi j'ai eu la même remarque et la même expérience sur un atelier de lessive. Comment faire sa lessive? Et là, en fait, les gens en situation de précarité sont venus, alors qu'il y avait beaucoup de cadres. Alors, c'est très drôle. Enfin, ça finit être très drôle, in fine. Pas du tout triste, mais drôle. Je ne sais pas si on était à la sobriété heureuse, mais en tout cas, c'était comme ça. Parce qu'en fait, les cadres, ils venaient parce qu'ils voulaient réduire leur empreinte carbone, etc. Et les gens en situation de précarité, ils voulaient juste gagner de l'argent et arrêter de dépenser de l'argent, parce qu'à l'issue, c'est cher. Et en fait, vous aviez un groupe assez hétéroclite, certes, qui venait pour des motivations complètement différentes, mais en fait, parce qu'on les a amené, on a expliqué l'objet de l'atelier. Alors je prends vraiment un atelier, parce que la lessive c'est un bon sujet, je pense, en France. Non mais c'est vrai, c'est pas trivial ce que je dis, parce que la lessive c'est fondamental, mais ça coûte cher. On se rend pas compte, mais la lessive ça coûte cher. Et donc finalement, on a réussi à faire venir des gens totalement avec des niveaux sociaux totalement différents pour des motivations, par des motivations qui étaient différentes. C'est juste la seule chose qui me vient à l'esprit. Bien sûr, ça le mériterait, mais on me fait comme ça, donc je me tais.
Alors, comment on négocie avec les gilets jaunes. Et ça franchement, je n'ai pas beaucoup de réponses. Par contre, le travail qu'on a fait sur la sobriété énergétique, on est parti des précaires énergétiques. On n'est pas parti des bobos qui voulaient faire des efforts de moins consommer, etc., dont je représente. Hein. On est parti vraiment des gens en situation de manque énergétique. Et donc, comment ils recomposent leurs relations sociales, leur manière de vivre à partir de ces situations-là. Et en fait, ça passe par des négociations, des intermédiaires, des médiations, des structures qui accompagnent, qui font le boulot d'interaction, de médiation. Le problème des gilets jaunes, c'est l'isolement, qui est aussi lié à leur situation de vie. Donc recomposer des collectifs, ça on peut l'invoquer, ça ne se décrète pas comme ça. Donc c'est la capacité de reconnaître qu'on est dans des situations contraintes partagées. Et ça, moi, je crois beaucoup au fait de dire... Eh bien, nous allons vivre les mêmes situations compliquées ensemble, et donc on doit construire des politiques d'entraide et de coopération. On a un projet à Roubaix en transition, c'est un peu le projet. Donc je vous invite, c'est pas de la publicité que je fais pour le bouquin, parce que si vous m'envoyez un mail, je vous enverrai le PDF, donc, parce que la société d'édition a suffisamment gagné d'argent avec ce bouquin, et donc on fera une édition de PDF. Mais ça, il faudrait pas le mettre dans le montage final.
Moi, je voudrais juste ajouter quand même quelque chose sur les gilets jaunes. Ils ont donc une grande partie d'entre eux a participé à une plateforme, enfin a dit en fait en gros ce qu'ils voulaient, ce qu'ils aimeraient sur une plateforme qui s'appelait Le Vrai Débat, un peu en concurrence au Grand Débat. Il n'y a eu aucune analyse de ce qui a été mis dessus. Nous, on a financé en fait une analyse comment sur les demandes en matière de transport et en matière de déplacement qui était sur comment sur la plateforme, et c'est Normal Sup qui nous l'a fait presque un peu en catimini. Tous les projets de recherche qui ont été déposés et qui voulaient analyser ce qui a été dit au Grand Débat ont été refusés. Et donc la seule personne qui a analysé, par exemple ceux de la Gironde, l'a fait en fait en allant faire des photocopies au département. Donc d'une certaine façon, malgré tout, il y a beaucoup de choses qui sont dites. On continue aujourd'hui d'analyser les cahiers de la Révolution qui précédaient la Révolution française. On a eu un grand nombre de gens qui ont participé au Grand Débat, beaucoup de gens qui ont participé au Vrai Débat. Et on ne donne pas de budget de recherche pour analyser ce qu'ils ont dit.
Merci beaucoup. Je voulais juste profiter une toute petite seconde. On a remercié deux fois Jacques Archimbaud, pas Aline, c'est profondément injuste. Aline Archimbaud, à qui on doit beaucoup.